patrimoine et spirituality. Patrimoine et spirituality, une émission réalisée avec Chantal Bruel. Bonjour Chantal.
Bonjour Armand, bonjour chers auditeurs.
Alors, on reprend cette semaine encore les lectures de Gilles Ladd ?
Oui, nous sommes encore sur le chemin, face à Rocamadour ou le long de l'Alzou.
Bon, parfait, reprenons.
Vous voyez, Gilles procède comme un véritable peintre. Nous voyons la verdure, nous voyons la falaise blanche, et puis cette pointe de spiritualité à chaque détour de chemin. Donc, je reprends. Mais c'est depuis Rocamadour, depuis les prés qui bordent le ruisseau, que l'on éprouvera le mieux la remontée vers l'obscur, l'abandon de l'heureuse et facile clarté. Les premières courbes du Val sont largement ouvertes à la lumière. Les versants surplombés d'austères profils se dénudent, d'herbes rases en éboulis. L'air frémit comme une inquiétude. Par places, l'épaisse poudre du chemin révèle le socle. Et l'ombre nous prend insensible, tandis que les penchants se redressent. Si l'on se retourne, un rocher nous toise, à peine reconnaissable, sur sa nouvelle face. L'on croit entrer dans un geste endormi des géants. De loin en loin, à la lisière des crêtes, des creux d'ombre et d'humidité ont laissé nidifier de grands chênes. La chaussée formée d'un empilement brut mais savant, est devenue une moraine à peine érodée par l'abandon. En amont, le lit de l'Alzou, épaissi de galets et de blocs, mime la pulsation rauque des hôtes hauts. L'emprise du lieu est désormais totale. Elle émane de la piste sinueuse, veinée de racines, du rétrécissement continu des méandres. Une sorte d'attente rêche règne en ces lieux. Acheminé lentement sous le couvert, l'envahissement des gris, réverbéré par les parois, oppresse comme si grandissait la menace d'une puissance toute proche et retranchée dans la profondeur. De lancinantes impressions s'accentuent, absence et fuite du soleil, étouffement du vert qui suinte des branches, étau du défilé où continue d'errer le tonnerre des crues. Et lorsque le regard cherche une issue vers les hauts, il distingue entre deux frondaisons la masse isolée du rocher, de roche fumade, lisse, blanc, vers la crête duquel se distingue l'herbe éparse du cos. Il suffira d'une heure de plus ou d'un éclairage différent pour que ce même rocher, menaçant comme un ventre de squale, concentre dans son ombre tout le vénéneux péril de l'inconnu. Les plus anciens textes médiévaux marquent bien cette impression d'être en ces gorges, dans un lieu du terrible. Pour peu que l'on se fasse perméable à l'atmosphère de ce bout du monde, l'on y découvre brutalement sa précarité. La route qui franchit le ruisseau, avant de monter vers une des zones les plus arides du Cos de Gramma, nous fait cette fois encore éviter le centre de Rocamadour, mais nous permet de le longer de l'extérieur et de l'envisager de façon latérale et panoramique. C'est de là que se révèle le mieux l'ampleur de la terrasse rocheuse clôturée par l'anneau de pierre des sanctuaires. Les grottes apparaissent à plein, peu fouillées, pour avoir été encombrées de déblais au XIXe siècle. Ces cavernes, où l'homme vécut sur plusieurs niveaux de la falaise, comme dans une colline de Cappadoce, ajoutent un nouveau mystère. D'ici, la basilique resplendit par tout temps. Le noble appareil des pierres affirme avec sobriété son lien organique avec la paroi et le sens invincible de la réalité que possédaient les bâtisseurs, cette réalité qu'ils affrontaient pour la célébrer en prenant appui sur elle. loin des flèches gothiques et du miroitement chatoyant des rosaces, la liturgie et la prière se colorent ici de l'écho assourdi du socle. La vibration des chants anime les épaisseurs de la roche pour plus de recueillement encore. D'une certaine façon, la basilique ressemble à une maison, demeure d'oraison et de silence qui, bien que vertigineuse, rassure. La sobriété massive de l'église attire invinciblement le regard comme une synthèse aboutie de l'architecture et de la spiritualité. Prolongeant la perspective vers la gauche, le palais des évêques de Tulle, très remanié, présente un gothique presque trop décoratif et les maisons marquées par le XIXe siècle, si elles s'unifient dans les harmonies du calcaire, s'éloignent par une note discrètement cossue des plis sobres et des puissantes draperies rocheuses de la basilique. Pourtant, si le regard se prolonge jusqu'aux dernières maisons de Laval, il est saisi par un groupe de demeures manifestement très anciennes. Elles entourent la maison dite de la Louve, pour avoir abrité l'un de ses animaux à la fin de la guerre de Cent Ans, alors que le Causse de Gramat n'était plus qu'un désert d'hommes. Les toits à très forte pente, les hautes façades, les logis étroits confèrent à ces bâtisses une physionomie méditative et humble, comme un pendant effacé à l'imposant sanctuaire. L'ensemble fortifié du sommet et son menu campanile disparaissent quasiment de cet éventail de pierres que le regard savant peut déchiffrer à loisir, y compris les ruelles furtives ouvertes dans la falaise vers des oratoires vertigineux. Et les grottes s'ouvrent çà et là, comme des ouvertures d'énigmes. Plus loin encore à gauche, deux bandes rocheuses prolongent les différents étages de la cité et délimitent des talus d'herbes rases, parsemés de menus bosquets. De l'œuvre des hommes à celle de la nature, une continuité de lignes se donne à lire et enchante la réflexion. Le soleil en tournant, et selon la saison, l'atmosphère, creuse plus ou moins les rochers environnants, accusant les modelés, faisant saillir les rares zones d'ocre. Le temps de s'ébrouer du parfum des chênes et du rêve troubadour, voici Magès, tout ouvert sur l'espace, sur des hauteurs où vibrionne l'alouette, et revit alors la joie du Moyen-Âge. Les murets ici sont bâtis en fines plaquettes. Ils en acquièrent une grâce particulière, alliant l'élégance à la fragilité, comme si à l'utilité de la clôture s'était ajouté un esprit d'ornement et presque de jeu. Le temps les a fait onduler, et les voitures à l'étroit les longeant, avec lenteur comme pour mieux assimiler cette leçon de beauté et de savoir-faire. Selon une tradition, une fée rayonnante mais perverse, prisonnière des cavernes souterraines, attendait celui qui, tout en ne l'aimant pas, la délivrerait en lui accordant un baiser. Or, c'est le chevalier des Arnis qui, accompagné de sa fiancée Gaïette, libéra la fée après qu'elle eut ramené à la vie la demoiselle qu'elle avait malencontreusement frappée d'un coup de lance. Selon une autre version, une jeune fille devenue domestique dans le moulin bâti à l'entrée du gouffre de Thémines où plonge Louis et qui communiquait avec son amoureux travaillant au château de Cabouy en jetant à l'eau des poignées de paille et des fleurs, fut victime de la fureur de son patron qui la précipita à l'eau. Voyez, il y a des légendes dans ces lieux. Dans les deux cas, la vasque de Cabouy reçoit les héros, les fait émerger en pleine lumière. Mais si le chevalier des Arnis et Gaïette sont vivants et prêts à renouer avec des enchantements du Causse, La jeune fille est bien morte, et le soleil de ses cheveux, dans l'eau bleue, ne cessera de hanter son fiancé. Ou bien les images légendaires, un peu effacées et partant de grandes canicules, dans les biefs encaissés entre deux murs de roche, l'on se laisse envahir par des touffeurs de bayous, par l'immobilité de l'eau secouée de poissons brusques et de sauvagines. L'eau se plombe à contre-jour, se replie jalousement sur sa vie, presque asphyxiée. Admettons que l'on ait choisi de ne pas encore descendre le cours de l'Ouïs. L'on est attiré par le renom diffus d'un gouffre voisin, celui de Saint-Sauveur qui, plus qu'une rivière souterraine, est une résurgence d'eau infiltrée à travers le Causse. Ses flots ne bouillonnent jamais. Son débit régulier donne naissance à un bref ruisseau qui va se jeter dans l'Ouïs. Et si la route mène à Cabouy, c'est un sentier qu'il faut suivre pour accéder à Saint-Sauveur. Si l'on a déjà aperçu ou contemplé ce puits d'ombre et d'eau, l'on s'en approche avec autant plus de crainte. C'est la lumière qui est maîtresse des lieux, lumière dont renaît la profondeur de moment en moment. Chaque heure a son gouffre, chaque visite a sa physionomie, son intonation, son mystère, sa poésie. L'émotion s'accroît jusqu'au moment où le chemin descend véritablement vers la résurgence. Désormais, l'on sera dans le dialogue avec l'eau travaillée d'insaisissable. L'ombre des branches basses, disposée en cercle, absorbe presque entièrement la vue de l'eau, mais une pointe de vert ou de bleu impose la présence, l'évidente présence de la vasque. Désormais, elle ne lâchera plus le regard du visiteur. Mais ce bleu vert, peut-être, un autre jour, un brun cristallin, un brun où l'ombre des arbres a la plus grande part. Et là où le soleil tombe droit, le regard dévale vers les fonds, à la suite d'une menue pierre plate qui descend telle un papillon, toute amenuisée dès qu'elle a touché l'eau. Parfois, cependant, canicule et sécheresse ravagent le Quercy, si sensible par ailleurs à l'absence d'eau. Alors, lentement, après des dizaines et des dizaines de jours sans pluie ni orage, l'eau commence à baisser. Au plus intense de la fournaise, le gouffre a perdu plus d'un mètre. L'eau est parfaitement, tragiquement immobile. Une végétation de mangroves sourd du lit, même du ruisseau. Mais ce n'est là qu'un moment singulier. L'on se replace bientôt devant le gouffre qui attire à lui toutes les images de l'été et de l'hiver, avec cette dernière saison, les mâts dénudés des arbres et la limpidité mauvaise de l'eau. Et vous partirez troublé d'images, pensant aussi à ce que nous disent ces explorateurs, à savoir que sa profondeur est à ce jour inconnue, que la galerie qui part en oblique au fond de la vasque est étrange, marquée de cupules, comme un tentacule de pieuvre, et que ces ondes ont déjà mortellement retenu plusieurs plongeurs. Cette virginité forestière fait lever un âge celtique. Parmi de longs lichens, les intrications des branches et des troncs sont telles que l'on se sent de trop, immanquablement fourvoyé. Ce royaume de l'humide et de l'ombre est captif du miroir blanc de l'eau, et le visiteur voûté, tout juste libéré du tournoiement glauque du gouffre, à peine à rompre les effluves de l'humus et du buis.
Chantal, si vous voulez bien, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission, toujours en compagnie de ces textes de Gilles Lade.
Voilà. Eh bien, écoutez, je reprendrai la semaine prochaine. Et voyez, c'est un texte tout à fait enchanteur.
C'est vrai.
Tout à fait. J'espère l'avoir bien partagé avec vous et nos auditeurs.
C'était votre émission Patrimoine et Spiritualité. Une émission qui a été réalisée avec Chantal Bruel.